Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si vous vous posez la question de savoir comment êtes-vous amené à anticiper les mouvements, à vous remémorer ces souvenirs lointains, ou pourquoi avoir cette étrange sensation que le temps est élastique, qu'il passe vite lorsque vous êtes pressé ou qu'au contraire il est long lorsque vous vous ennuyez, cette émission est pour vous car toutes ces questions ont un dénominateur commun, notre conception du temps, de la durée et de l'instant par le cerveau humain. Le temps, instant et durée, de la philosophie aux neurosciences, c'est le titre de l'ouvrage de Pierre Buzer et Claude Debru, qui sont nos invités dans cette nouvelle émission. Ils se sont intéressés aux questions actuelles que se posent les neurosciences sur la construction cérébrale du temps vécu. Le temps humain n'est pas lisse et ordonné, il est dissymétrique et orienté, comprenant à la fois passé, présent et futur. Et que penser du temps physique, celui qui est comptabilisé par nos horloges? Nous avons tous constaté que nos montres, nos pendules se décalent petit à petit, qu'elles avancent ou qu'elles retardent. C'est le phénomène de la dilatation du temps, une expression de la relativité générale chère à Einstein. Tous ces points sont abordés dans l'ouvrage de Claude Debru et Pierre Buzer, qui réalisent aussi une histoire de la conception du temps, histoire des idées, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pierre Buzer et Claude Debru, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pierre Buzer, vous êtes neurobiologiste, neuropsychologue, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous vous êtes très vite tourné vers la neurobiologie intégrative. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et Claude Debru, vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du département de philosophie et responsable du collectif Histoire, philosophie, sciences à l'ENS. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Il existe de nombreux temps, le temps cosmique, le temps historique, le temps des sociétés humaines ou encore le temps individuel. Existe-t-il, selon vous, plusieurs conceptions du temps, selon qu'on est philosophe comme vous, Claude Debru, ou neurobiologiste comme vous, Pierre Buzer, ou encore physicien? Claude Debru, pour commencer.
La question que vous posez est absolument fascinante et cruciale aujourd'hui. Existe-t-il une définition unique du temps ? Nous sommes obligés de constater qu'il existe tellement de niveaux de réalité qui s'intriquent et se superposent qu'il est vraisemblablement impossible de donner une définition unique du temps. Mais puisqu'il s'agit d'abord de philosophie, on doit rappeler inévitablement, je crois, la formule de saint Augustin touchant le temps. « Quand on ne me le demande pas, je le sais. Quand on me le demande, je ne le sais pas ce que c'est que le temps. » Alors c'est une formule qui reste d'une étrange actualité. En tout cas, la philosophie, puisqu'il s'agit d'elle, s'est intéressée très directement à l'expérience humaine du temps, à sa structure, passé, présent, futur, au statut étrange de ses concepts, puisque le présent passe et que le futur arrive. Donc ce sont des choses qui sont tellement fuyantes dans l'expérience humaine du temps qu'il est très difficile de les conceptualiser, et c'est ce à quoi les philosophes se sont généralement attachés. Bien sûr, ils n'ont pas ignoré la physique, loin de là. Et on peut voir au cours de l'histoire de la philosophie à quel point les conceptions de la physique classique, en particulier newtonienne, sur le temps cosmique, le temps absolu, ont pu avoir des conséquences philosophiques dans la création de certaines théories. Mais ceci est un point un petit peu technique, et je pense que je vais en rester là pour l'instant.
Pierre Buzer est aussi avec nous en studio. Alors, quelle est la conception du temps pour le neurobiologiste que vous êtes?
Eh bien, je dirais que même en tant que neurobiologiste ou neurocognitiviste, ou, enfin, tout au moins m'intéressant essentiellement à la mécanique nerveuse, sous un aspect plutôt intégratif, pour parler un peu savamment, la définition du temps est un problème très vite, tout en tenant compte, évidemment, et en admirant l'évêque Augustin, aucun problème. Je dois dire que très vite, le temps apparaît avoir plusieurs définitions possibles, selon qu'on s'adresse à l'instant ou à la durée. Ce sont deux notions qui assez vite sont apparues dans l'histoire, et qui, bien entendu, avec Bergson, sont devenus une sorte de leitmotiv. Et Bergson était attaché à cette opposition. Et la différence, elle est devenue plus complexe et plus radicale lorsque la physique s'est développée, en particulier au XIXe siècle et bien entendu au XXe. Avant, il y avait une certaine conception du temps et qui a basculé avec l'arrivée d'Einstein en particulier. Donc, avec l'arrivée d'Einstein, la physique, une partie de la physique est maintenant tout ce que l'on appelle le domaine de la microphysique, a une certaine conception du temps, pendant que la psychologie et les êtres vivants en général, et les gens qui réfléchissent sur les êtres vivants, sont bien obligés d'avoir une autre conception du temps, dont nous reparlerons sans doute tout à l'heure.
Alors, on va rester au XIXe siècle. Les psychologues, les physiologistes pensaient à un moment donné qu'il existait un sixième sens, le sens humain du temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Claude Debray.
Oui, c'était une proposition qui a été faite, effectivement, par ces gens du XIXe siècle qui étaient des gens, des esprits à plusieurs facettes. C'était à la fois des physiciens, des physiologistes, et ils ne s'interdisaient pas de philosopher. Alors l'un d'entre eux a proposé l'idée d'un sens du temps. Existe-t-il un tel sens du temps ? C'est très douteux. Mais cela a été, une indication touchant un sujet qui devenait de plus important pour les psychologues et pour les physiologistes. Et c'est une remarque historique qui doit être faite. Alors, ils ont abordé les choses en essayant de mesurer, enfin, d'avoir une quantification de ce sens du temps, de son degré de précision, etc., etc.
Donc finalement, nous percevons non pas le temps en tant que tel, mais les événements qui se déroulent au cours d'un temps donné.
C'est-à-dire que ce qu'on dit, ce qu'il est courant de dire, c'est que nous percevons le temps, mais nous n'avons pas d'appareil percepteur du temps, de récepteur. Comme tout se passe, comme tout notre système était bâti en quelque sorte pour former un énorme compteur du temps, puisque nous avons des horloges pour les différents niveaux de temps. Nous avons une horloge pour les 24 heures, ce qui est l'horloge circadienne. Nous avons une horloge pour compter les minutes, les secondes, et les heures, les minutes, les secondes, ce qu'on appelle l'horloge des intervalles ou les horloges des intervalles. Et nous avons d'autre part un système compteur des millisecondes. Autrement dit, il y a véritablement trois domaines, grossièrement parlant. Il y a trois ordres de grandeur du temps pour lesquels tout notre système est en quelque sorte organisé, non pas seulement le nôtre, mais celui des animaux. Organisé pour percevoir en quelque sorte chaque minute, chaque seconde, d'une façon relativement et quelquefois remarquablement excellente et exacte.
Alors, dans votre ouvrage, vous revenez aussi sur ce débat d'idées entre les philosophes et les psychologues sur cette conception du temps par le cerveau humain. Vous opposez William James, enfin il s'oppose tout seul, hein, William James et Wilhelm Wundt. William James, où une de ses idées principales est la continuité de la conscience à travers le temps, alors que Wilhelm Wundt, lui, développe une théorie statique de la conscience qui illustre la pensée comme une succession d'images. Alors, est-ce que vous pourriez nous illustrer ces deux théories et nous dire qui a raison, qui a tort ? Claude Debruy ?
Oui, c'est un débat très contemporain, toujours d'ailleurs, et très intéressant. Oui, William James est le célèbre théoricien du courant de conscience, le stream of consciousness. Pour lui, il était impensable que la conscience soit quelque chose qui soit morcelé. Une conséquence de cette vision des choses est qu'il a cherché à rendre raison de la continuité de la conscience en s'intéressant à la mécanique cérébrale. Ce qui est vraiment remarquable et qui, je crois, pose des questions encore mal résolues. Quant à Wilhelm Wundt, il était dans une autre perspective. Il était dans la perspective d'une psychologie fondée sur les sensations. Et il se posait la question de savoir si plusieurs représentations peuvent coexister dans la conscience. Et il était amené à des développements qui introduisaient l'idée d'une sorte de rythmicité dans le contenu de conscience. Et cette idée a été reprise plus récemment par un physiologiste allemand, Ernst Pöppel. Donc, voilà, il s'agit de questions qui sont toujours actuelles.
Donc, les deux ont en partie raison. On ne sait
c'est
pas.
C'est à voir.
C'est à voir. Pierre Buzer, sur ce point.
Pour poursuivre l'intervention, je crois effectivement qu'on arrive tout de même à... La conception de Wilhelm James est excellente sur la consciousness, pour la continuité de la conscience. Mais l'idée de Wundt, de saut en quelque sorte, et de période de conscience et en quelque sorte successive, n'est pas non plus fausse, si on considère les périodes de non-conscience. qui sont donc très importantes dans la vie d'un homme, ne serait-ce que la période de sommeil déjà. Et puis il y a aussi des périodes de plus grande conscience ou moins grande conscience, c'est-à-dire finalement à ce moment-là, la conscience devient l'attention. Parce qu'il est souvent difficile de définir la conscience, mais à ce moment-là, on définit l'attention qui est une fonction presque mesurable en quelque sorte.
Donc en fait, le présent semble toujours accompagné par des traces du passé plus ou moins proches.
Ah oui, non, mais ça, c'est, nous y arriverons certainement hein, tout à l'heure, à parler, on peut en parler si vous voulez, précisément, de ce qu'est le présent par rapport au passé et au futur, si je puis dire. Et de se demander finalement, et ça William James et comme Husserl aussi avant lui, ont posé la question, quelle est l'épaisseur du présent ? Le présent est-il un instant et qui passe immédiatement ? Ou bien le présent psychologique n'est-il pas plutôt, et on est à peu près d'accord maintenant, pour considérer que le présent psychologique a une certaine épaisseur, c'est-à-dire une certaine épaisseur, l'immédiatement passé et ce qui va immédiatement arriver, ce que nous pouvons prévoir en gros dans les quelques millisecondes qui vont suivre, et quelquefois peut-être plus, représente le présent, pour nous c'est pratiquement le présent, alors que théoriquement c'est le futur, ce n'est plus le présent. Et chaque fois que le présent passe, le futur. Mais nous avons toujours, il y a la partie immédiate qui entoure immédiatement la notion d'instant est un temps d'une certaine épaisseur qui est peut-être une des plus importantes de notre vie consciente. Parce que à la fois nous nous rappelons ce qui s'est passé hier, parce qu'il faut compter en millisecondes là, en millième de seconde, et ce qui va se passer dans les quelques millièmes de seconde ou centièmes de seconde pendant que je parle maintenant ou ce que j'agis. Eh bien, ceci fait un tout. On ne peut pas détacher entièrement l'instant de ce qui va arriver et de ce qui est juste arrivé.
Donc un continuum, oui. Une flèche du temps.
Oui, alors je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Pierre Buser et revenir à William James à ce propos, parce que c'est excessivement important. William James a pris cet exemple. Je prononce la phrase progressivement, le paquet de cartes est sur la table. Lorsque je prononce cette phrase, mon contenu de conscience s'enrichit jusqu'à un maximum, et puis il cesse, il décroît. Mais pour bien comprendre cela, il faut admettre qu'il y a une totalité préexistante quelque part dans la conscience qui concerne la représentation que le paquet de cartes est sur la table. Donc il y a à la fois une présence quelque part, et puis un déroulement successif, une totalité. Ceci pose des problèmes beaucoup pour les linguistes, et en particulier jusqu'où va cette totalité et quand est-ce que des embranchements peuvent être pris pour construire des phrases plus complexes.
Donc à travers tout ce que vous nous dites, on peut se poser la question de savoir comment le cerveau crée le temps. Pierre Buser.
C'est-à-dire, j'ai fait allusion aux horloges. Il est évident que c'est dans notre rapport avec notre environnement, les appareils que nous avons nous permettent en quelque sorte de mesurer le temps. Certains philosophes ou même des psychologues diront que ma façon de poser le problème n'est peut-être pas la bonne, ce n'est peut-être pas le bon ordre de cause et d'effet, mais de toute manière, ce qui nous permet, nous, d'apprécier le temps, ce sont des systèmes cérébraux. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a trois, en gros, qui considèrent trois ordres de grandeur des temps. Il y a le temps de 24 heures, le temps heure, minute, seconde, et peut-être les instants, c'est-à-dire les millisecondes. Pour l'horloge circadienne, pour l'horloge des 24 heures, nous avons tout un système que je ne vais pas évidemment décrire ici en détail, mais qui est un système qui fait intervenir plusieurs parties du cerveau, toute une série de circuits. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de localisation précise des horloges. On ne peut pas dire telle structure du cerveau est une horloge à elle seule. Ce sont des circuits très largement répartis, en particulier l'horloge circadienne, qui a une partie dans la profondeur du cerveau, dans l'hypothalamus, une autre dans la partie tout à fait profonde donc, du cerveau, et qui s'en va ensuite vers une région qu'on appelle la région pinéale, c'est-à-dire la région postérieure occipitale, où les animaux d'autres groupes, c'est-à-dire les oiseaux et les reptiles, ont un œil pinéal. Nous n'avons plus d'œil pinéal, mais c'est dans cette glande pinéale qu'aboutissent les actions de l'horloge en particulier. Donc l'horloge fait un système. Et puis ensuite, nous avons une horloge aussi. Nous avons des horloges pour les heures, les minutes et les secondes, des horloges qui sont un peu partout dans le système central, dans les aires cérébrales, plusieurs, je ne détaillerai pas bien sûr. Et puis pour les petits intervalles, il semble que le cervelet, contre toute attente, le cervelet soit un système très bon opérateur pour les mesures, en quelque, les évaluations en quelque sorte, des temps courts. Voilà ce qu'on peut dire. Vous avez posé la question tout à l'heure de la flèche du temps, je pense que c'est un autre problème.
C'est un autre problème et qu'on va aborder, si vous voulez, dans quelques instants, oui, après notre pause. Je vous propose donc de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Une série particulièrement destinée à nos amis étrangers dont le français n'est pas la langue maternelle, car apprendre le français, c'est aussi l'écouter.
En Écoute Facile propose des portraits d'académiciens, des descriptions de hauts lieux qu'ils ont appréciés et même des textes sur des animaux qui les ont fascinés.
En Écoute Facile, la série pour écouter aisément le français.
Suite d'une rémission en compagnie de Pierre Buzère et Claude Debrue, avec qui nous évoquons « Le temps, instant et durée », c'est le titre de leur ouvrage paru aux éditions Odile Jacob en avril 2011. Dans cet ouvrage, vous parlez à la fois des neurosciences, de l'aspect philosophique, mais également de l'aspect physique du temps. Justement, intéressons-nous pendant cette deuxième partie d'émission à cet aspect physique avant d'en revenir à un aspect psychologique. Vous avez parlé juste avant la pause, Pierre Buzère, de la flèche du temps. En tout cas, je l'avais bien noté dans un coin de ma tête. Donc je vous le ressors, la flèche du temps est un terme qui revient dans votre ouvrage. Un thème non pas que vous opposez, mais que vous différenciez du sens du temps. Alors, quelle est la différence entre les deux et en quoi cela intervient-il dans la physique ?
Je ne vous parlerai pas du sens du temps pour l'instant, je ne vous parlerai que de la flèche du temps. Ça mérite une petite histoire, je serai bref, sur le problème de la réversibilité ou de l'irréversibilité du temps. C'est un problème qui, par conséquent, dépasse le cadre de la flèche, simplement. Autrefois, c'est-à-dire au XVIIe siècle, puis ensuite, pratiquement, nous avions Laplace, XVIIe, nous avions Laplace et Newton, pour lesquels le temps était réversible. Physiquement, le temps était réversible. C'est-à-dire qu'on pouvait aller, il marchait dans un sens ou dans l'autre, si je puis dire. Et c'est beaucoup plus tard, en 19e et fin du 19e, milieu du 19e, disons, qu'est apparue en physique la notion d'irréversibilité dans la physique que l'on pouvait atteindre instrumentalement à ce moment-là, et qui s'est appelée plus tard la macrophysique. À ce niveau de physique globale, est apparue une grandeur qui s'appelle l'entropie. L'entropie étant telle que, je ne vais pas parler en détail, c'est une unité thermodynamique, c'est un élément thermodynamique, l'entropie est telle qu'elle est grande quand il y a beaucoup de désordre dans un système, tandis qu'elle est petite quand il y a de l'ordre dans le système. Or, par exemple, comme on sait que dans un système, le froid va toujours vers le chaud et pas l'inverse, c'est un exemple même de l'irréversibilité. Et autour de cette entropie, on a vu donc se développer la notion générale de l'irréversibilité du temps en physique, comme elle était d'ailleurs déjà reconnue en biologie. Et je reviendrai dessus dans un instant. Donc, il y a eu cette physique, maintenant macrophysique, où le temps est irréversible. Et ultérieurement est arrivée la microphysique, c'est-à-dire la physique des particules, la physique des quantas, où on s'est aperçu qu'au contraire, les lois étaient réversibles. Autrement dit, en microphysique, au niveau quantique, la physique, qu'on appelle la microphysique, le temps est réversible. Si bien qu'on se trouve devant cette contradiction, c'est que si l'on prend les éléments de base de la physique, le temps est réversible, et quand on monte vers la macrophysique, des éléments de la macrophysique qui nous entoure, le temps est irréversible. Problème. Et on a montré, c'est en particulier Boltzmann, enfin c'est un physicien théoricien, qui a montré très bien que quand on accumule des lois microphysiques, le résultat, l'émergence, est irréversible. Quand elles sont réversibles, l'émergence de ces lois additionner les unes les autres, qui sont des lois de réversibilité, le tout devient irréversible. Autrement dit, c'est un problème de complexité. Bien. Donc, les physiciens sont à peu près d'accord actuellement, et ce que j'ai dit dans le bouquin, ce que nous disons dans le bouquin, les physiciens sont à peu près d'accord pour considérer qu'en niveau micro, c'est réversible, au niveau macro, c'est irréversible. Et quand nous allons en biologie, là, impossible de sortir de la notion de l'irréversibilité. C'est ce qu'on a appelé la flèche du temps. quelqu'un l'a appelé la flèche du temps, peu importe. Et cette flèche du temps signifie tout simplement que le temps va dans un sens et pas dans l'autre. Et en biologie, il n'y a pas à discuter, on ne peut pas imaginer trouver quelque part une réversibilité. C'est irréversible. Nous naissons et nous vivons et nous mourons. Toutes les espèces animales, l'ensemble des espèces vivantes, sont dans ce cas. Voilà à peu près comment on peut résumer, évidemment, très rapidement, cette notion d'irréversibilité. Ce qui fait, je terminerai par là, ce qui fait qu'il est actuellement, il y a tout de même une opposition entre la physique, au moins la microphysique, c'est-à-dire la physique de base, la physique qui est la plus actuelle et qui intéresse le plus les physiciens, et les biologistes, qui, eux, ne se posent même pas la question. Voilà à peu près les choses.
Donc, alors, il y a une opposition. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi de la dilatation du temps. Et de la dilatation du temps, vous...
Alors, ceci, tout est dans tout. Mais enfin, c'est tout de même un autre problème. C'est un problème qui prend, en quelque sorte, sa naissance avec la relativité. C'est-à-dire Einstein. Moi, je vous ai parlé des théories de Planck, c'est-à-dire les quantas. Maintenant, je passe à quelque chose qui a un peu précédé la théorie des quantas, c'est-à-dire la théorie de la relativité. Pour Einstein, le temps qui, à ce moment-là, le temps qui du temps de Newton était absolu, car c'était encore autre chose, le temps était absolu avec Laplace et Newton, le temps était absolu, c'est-à-dire que la simultanéité existait toujours. Mais si l'on prend la relativité, l'idée essentielle, une des idées essentielles de la relativité, c'est que selon les référentiels, deux points pourront être ou simultanés ou l'un avant l'autre. Autrement dit, la simultanéité n'est pas une valeur absolue, n'est pas absolue. Et c'est à partir de là que l'idée est venue donc que selon... Alors Einstein a donc établi sa formule E égale mc2, c'est-à-dire liant l'énergie, la vitesse, etc., et la masse, et il a montré que... Il a prévu, plutôt. Il a prévu, car ce n'était qu'un théoricien, il a prévu que le temps, la durée, changerait avec la vitesse, et que la vitesse est plus la vitesse d'un événement. L'événement se déplaçant dans un système, l'événement se déplaçant d'une certaine durée, plus il allait vite par rapport à la vitesse de la lumière, plus il se réduisait, plus le temps devenait court. Et c'est là que l'idée est arrivée, ce n'est pas Einstein qui a donné l'idée, mais
C'est Langevin.
La fameuse idée des jumeaux, dont l'un reste à terre, au sol, et l'autre part en fusée, c'était évidemment tout à fait imaginé. Et à ce moment-là, quand le sujet à terre passait 200 ans, c'est fictif effectivement, le sujet dans l'espace ne passait que 2 heures. Bon, c'était évidemment pas tout à fait exact, mais ça a donné lieu à des disputes et des discussions extrêmement vives. À ce moment-là, c'était dans une période où la science était très active et finalement assez médiatisée comme on pouvait le faire à ce moment-là, au moins dans les milieux scientifiques. Et il y a une discussion en particulier entre Bergson qui tenait à sa durée absolue, son instant et sa durée. Pour Bergson, la durée psychologique était quelque chose d'absolument immuable. Or, voilà que Einstein propose, ou plutôt Langevin propose, que quand le jumeau se promène à la vitesse de la lumière ou près de la vitesse de la lumière, il passe 2 heures alors que l'autre passe 2 siècles. Bergson ne l'a jamais accepté, mais bien entendu, il a eu tort. Et toute cette discussion maintenant n'a plus lieu d'être. Elle fait partie des choses amusantes de l'histoire de la physique.
Et j'invite donc nos auditeurs à consulter votre ouvrage pour justement connaître tous les détails. J'aimerais que l'on revienne à l'aspect psychologique, neurophysiologique. Il y a toute une partie de votre ouvrage qui est consacrée à l'aspect du futur, un aspect très important, notamment lorsque vous abordez une autre forme de mémoire assez peu étudiée, en fait, qui est la mémoire dite prospective. Alors, Claude Debreu, qu'est-ce qu'on appelle la mémoire dite prospective et en quoi a-t-elle un lien avec le futur ?
Oui, alors c'est une question effectivement très très importante qui a émergé finalement assez récemment dans l'histoire de la pensée, qui a émergé vers la fin du 19e siècle, à savoir que, et c'est un phénomène intéressant en soi, parce que l'apparition de cette dimension de futur dans la représentation du temps, elle a quelque chose d'équivalent, elle trouve quelque chose d'équivalent dans le langage, dans l'histoire des langues. Dans l'histoire des langues, le futur est une invention récente. Dans l'histoire de la pensée, de la réflexion philosophique, le futur, la préoccupation du futur est une invention assez récente. Alors ça doit poser des questions de sociologie, de philosophie, etc. Mais on s'est beaucoup intéressé à ces questions, et en particulier deux penseurs, William James, dont on a beaucoup parlé, et Husserl. Alors, c'est Husserl qui a introduit l'idée que la conscience avait une dimension essentielle qu'il a baptisée protension, c'est-à-dire tension vers le futur, qu'il a plus ou moins définie comme l'attente. Et dans la suite de ses réflexions, il a essayé de décrire et même de modéliser, enfin, avoir des représentations graphiques, la conception qu'il a réussi à dégager d'une certaine intrication entre ce qui est en train de se produire et ce qui vient de se passer dans la conscience. Donc il y a là, effectivement, une sorte d'intrication qu'il a cherché à se représenter conceptuellement. Alors, ça pose évidemment beaucoup, beaucoup de questions. Il y a un aspect psychologique, l'anticipation, dont on pourra parler, mais Husserl n'était guère porté sur la psychologie, il était porté sur la réflexion philosophique, sur la méditation, en quelque sorte, et ce qu'il pouvait extraire de sa pensée méditative. Et donc, ça pose quand même aussi le problème de savoir comment la mécanique cérébrale lit, n'est-ce pas, cette intrication, réalise cette intrication entre le passé immédiat et le futur qui est en train de se produire. Ce sont des questions absolument fascinantes.
Alors, normalement, effectivement, vous citez, pour donner des exemples, l'anticipation dans la gestuelle, par exemple. Vous avez des sportifs qui vont, par exemple, recevoir un ballon et instinctivement vont se mettre de telle manière à recevoir le ballon et s'apprêtent comme ça à le recevoir. Ce qui, justement, entre dans la mémoire dite prospective. En préparant cette émission, il y a un mot qui vous a fait bondir, c'est le mot « réflexe », car j'ai cité le mot « réflexe ». Alors peut-être que Pierre Buzat, vous pourriez nous faire justement la différence entre l'anticipation et la mémoire prospective et le mot « réflexe » que j'ai utilisé.
Je parlerai de l'anticipation directement en enchaînant sur ce qu'a dit mon confrère. Si vous voulez, la position de Husserl et de Husserl est une position vraiment très intéressante, parce qu'il a vraiment été un peu un précurseur, peut-être un peu beaucoup un précurseur dans cette notion. Mais entre-temps, les choses se sont développées sous un autre aspect, plus psychologique, puisque Husserl n'était vraiment pas un psychologue, c'était un philosophe. Mais les psychologues, même des psychologues assez pratiques, se sont posé la question, et eux ont senti aussi que nous anticipions les mouvements. Autrement dit, parce que l'idée, la vieille idée qui consiste à dire « je reçois un stimulus et ensuite je fais un geste », c'est-à-dire « c'est un réflexe », c'est une idée complètement absurde. D'abord, il est très possible que si je fais ce geste, je le fasse à la suite de certaines stimulations, de certaines incitations, mais certainement pas en réflexe. C'est-à-dire un réflexe, on conserve le terme simplement pour des mouvements très élémentaires réglés par la moelle épinière ou par quelques centres du tronc cérébral. Quand je reçois un objet dans l'œil, je cligne de la paupière, etc. Ça, ce sont des réflexes. Je reviens donc aux mouvements organisés, qui sont tout autre chose, que nous effectuons. Et si nous effectuons un mouvement, par exemple un mouvement de préhension, c'est que nous avons prévu un certain nombre, d'abord un trajet, nous avons une incitation visuelle qui forme une image dans notre cerveau et qui crée l'image du mouvement. C'est-à-dire que nous avons une image du mouvement que nous allons effectuer. Nous anticipons ce qui va se passer. Ce n'est pas par hasard qu'on ne tape ici, si mon cerveau marche bien, si je veux saisir mon stylo sur la table, je ferai ce mouvement et non pas un mouvement vers un autre point de la table. On voit précisément des malades, c'est des lésions cérébrales, qui font précisément, qui veulent faire cela et qui n'y arrivent pas. Par exemple, qui n'arrivent pas à appuyer. Quand ils travaillent sur un ordinateur, après ces lésions, ils ne peuvent plus trouver la lettre sur laquelle ils veulent appuyer, alors qu'ils la connaissent, la lettre, et qu'ils ont passé une partie de leur vie à faire cela.
C'est donc un manque d'anticipation.
C'est l'anticipation, le planning, si je puis dire, la conception de l'ensemble du mouvement, qui est un geste vers le futur, en quelque sorte, qui représente ce qui va se passer. Alors, il y a un autre aspect, qui est un peu plus théorique, qui est la probabilité que quelque chose arrive, qui est aussi une façon de prévoir le futur, si je puis dire. Nous avons ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement se produise si un événement précédent s'est précisément passé. Deux événements liés, il y en a un qui se produit, et si celui-là se produit, la probabilité pour que l'autre événement se produise est très grande. Donc, une lumière s'allume et à peu près régulièrement, une pédale sort, c'est pour l'animal. L'animal sait que quand il y aura la lumière, la probabilité sera très grande, ou pratiquement 1, c'est-à-dire parfaite, que le levier sorte pour qu'il puisse appuyer. Eh bien, l'animal se prépare à faire son mouvement. Autrement dit, il y a toute une construction du futur immédiat à partir de nos opérations cérébrales.
Donc vous avez prononcé le terme de futur immédiat, hein. Je crois que c'est le terme immédiat qui est important.
Simplement, le futur, la probabilité permet d'aller plus loin quand je prévois un mouvement, tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Ce mouvement que vous me voyez faire, c'est une prévision où j'ai tous les éléments en main, si je puis dire, ou plutôt dans ma tête. En revanche, si on me donne une lumière et on fait sortir un levier, mais pas chaque fois, avec une probabilité conditionnelle élevée, je vois la lumière s'allumer, je sais que la pédale va sortir et le levier va venir. Je pourrais appuyer sur le levier, mais ce n'est pas peut-être... Je sais à peu près. Donc, je me prépare. Donc, il y a tout un travail qui n'est pas encore complètement terminé, des neuropsychologues en particulier, et d'un certain physiologiste du cerveau, qui doivent véritablement étudier cette préparation du mouvement et qui peut maintenant s'étudier vraiment physiologiquement, c'est-à-dire en enregistrant des activités de neurones.
Alors, on arrive vraiment au terme de notre émission. Donc, ce sera ma dernière question et je vous demanderai d'y répondre relativement rapidement. Est-ce que, justement, sur cette question du futur de mémoire prospective, c'est un des points sur lequel les chercheurs seront amenés à travailler dans ces prochaines années ? Claude Debru ?
Certainement. Je pense qu'il y a une grande nouveauté dans toutes ces affaires-là. La tradition philosophique a négligé le fait que la conscience est liée à l'action. Elle a très longtemps négligé, pour des raisons... commenter. Aujourd'hui, c'est devenu un programme, tout simplement, de recherche en neurosciences, je crois, c'est tout à fait clair. Et les philosophes s'en sont persuadés, eux aussi.
Eh bien, merci Claude Debru. Je rappelle le titre de votre ouvrage à tous les deux, Le temps, instant et durée de la philosophie aux neurosciences. Précisons qu'il y a peut-être une troisième personne qui est intervenue, c'est Roger Balian pour la partie physique, et puis l'intervention également d'Alain Spey, de Maurice Goldman, et puis il me semblait qu'il y avait une autre personne, Yves Meyer également, voilà. Pour la partie physique, paru aux éditions Odile Jacob en avril 2011. Merci à vous, merci d'être venu nous voir, et puis à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.